RCF. Fablez-nous, pémogène-nous, et brezonec, gond Dominique Tepot.
Bonsoir à tous, nouvelle fable ce soir, avec notre présentation habituelle, lecture d'abord de la fable de Jean de La Fontaine, puis sa réinvention bretonne par Pau Tréhouré, l'abbé Conque, et par Gwenaël, l'abbé Causanette. Allez, c'est parti.
La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans l'élan de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt elle l'envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta, et dit « Nous sommes quatre à partager la proie ». Puis en ôtant de part, le cerf il dépeça. Prit pour lui la première, en qualité de sire. « Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle le lion. » À cela, on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'un de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord.
C'est un joli partage, hein. Livre 1, fable 6, dans les fables de La Fontaine. Quelques remarques sur les expressions aperçues dans ce texte. Un fier lion. Fier, fier a le sens de féroce au départ. Donc un lion féroce. Dans les lats de la chèvre, un cerf se trouva pris. Les lats sont des collets, des nœuds coulants pour prendre le gibier. Ça a donné en diminutif le mot lacet. Il se prononce la, alors qu'il s'écrit L-A-C-S. Ongles. Ongles étaient aussi employés à l'époque pour des animaux. Le lion compte donc sur ses ongles. Il faut noter que le mot « sire » est « cas sujet » dans la langue romane, le cas « régime » étant « seigneur ». Oui, parce que la langue française avait aussi des cas. « Je prétends la troisième ». Alors, « je prétends la troisième », on se dit, mais c'est, ça colle pas bien en français, « je prétends la troisième ». C'est un cas transitif direct. On s'attendrait à « je prétends à la troisième », qui serait un cas plutôt du datif. Mais là, donc, transitif direct. « Je prétends quoi ?»« Je prétends la troisième ». Maintenant, la traduction recréation de cette fable par Pau Tréhouré en breton. En unner a haur agan danvades e boutin gan a leon. En danvades a haur aga hoar en unner, en em glevas gwechal gan de leon punner, pabor doujet gan an ol, dalaka de boutin gounediges a kol. A haur e lasu treis a bakas a haro. Setu galve dan ol dira ke gorf maro. A leon da dosta digor braz e hinu, a varnas okunta varbege i vinu. Pe varom e mehan a loden var a preis, a ranet pe vardam gant krabon e bau kleis. E pa kunan, emma e mezan a zo da roue, zo mesra tao goude doue. Dimme nehe sklear a ganet, a re neuske da zikanat. En eil ad le behadinie, pa meus perz e gwir a euli ar muaners. En tredet le beha d'ar muia kalonek, dimenehe mar gwezit brezunek. Aga pevar etam, en eb a deuil de glask, men mougo gan va wask. A satare penans e kerz an trao din an lezen an ners. La version de l'abbé Causanette, le barde Gwenaël, à peu près à la même époque. En unner aga havre, au hoar an danvades, gandoleon aotrou eus o amezeges, are kevrediges a lever er gwechal, aga lakaz e boutin an digwez ma da fal. E lindagou a havre, ur haro a wepaket, a varzu a re al, pedwe kelou kasset, Arrément diredet a leon aguntas, ped loden oada obar vari vinu nuas. Pe varom e mezan denem ranna ar preis. Nehe eus a haro e reas pe vardam reis. Etalras a henta e nabeg e oa outru. Dimet le beha e mezan va guiriu a zo splan, rak hui war va anno e o leon netra da lavarout parenan a hantoun. An eil zo dinye, drema zon a renva, evel nikun morse nam gleva zo krena. Ezeo c'hoaz le din kaoud ou spen an trede, a ma fel dun an al kregi ar pevare, nevin kepel ouze vouga evit deski dehan beva. Quelques remarques maintenant sur le vocabulaire et les expressions de ces deux fables en breton. Lassou treis. Lassou, en breton, ça veut dire un piège, un collet, un nœud coulant. Ici, Paotréouré rajoute treis pour dire qu'il est placé sur un passage, un treis. Gwenaël utilise plutôt le mot lindagou, qui désigne un lacet pour prendre des oiseaux plutôt. D'autres mots pour dire piège, grippet, trappe, strap. Il a été piégé, trappé des bêtes, quehe de oellas. Sclear agannet. Voici la belle traduction de l'expression utilisée par les jeunes. Ils ponctuent leur réponse par un c'est clair. C'est clair. Anad veut dire évident. Un vocabulaire juridique en breton ici magnifiquement présent également, puisque nous avons quasiment un jugement avec le lion qui fait le juge et donc un contrat, et puis dans ce contrat un certain nombre de parties prenantes. Donc enem glevet, c'est lier un contrat. Laka de boutin, mettre en commun. Beha et kevrediges, écrit plutôt Gwenaël. Le paysan actuel comprend être en gaek. Les paysans sous le régime du métayash, Merourien, étaient associés à leurs propriétaires et se partageaient les récoltes souvent à 50-50, varza ou anter. Il est à noter que l'expression du XVIIe, être en société, c'est-à-dire en relation, a été reprise en breton quand il a fallu s'associer à plusieurs pour utiliser une grande machine qui est une batteuse, par exemple. Et on entend encore des anciens dire « Ni aïua société minkan et gandarehe » Nous faisions équipe pour le battage avec cela. Gounediges a col, les gains et les pertes dans toute entreprise humaine. Gwenaël dit la même chose par Andigues madafal, les fortunes de l'exercice. À l'Oden, la part de chacun, l'action de société. Gwenaël dit Antam reis. Arouez au maestre atao goudé doué, ici mention du régime de royauté absolue, où le souverain, de par son sacre, est de droit divin. Droit, bien sûr, abusif. Droit léonin. A leonareas pevardam reis. L'adjectif reis veut dire juste, équitable. Dans d'autres contextes, il veut dire tranquille. Par exemple, ervur reis, c'est une vache qui se conduit tranquillement. Arma reis, qui est le livre de souvenirs de jeunesse écrit par le frère Vicente Seite, originaire de Cléder. Neske dazinkanat, il n'y a pas d'appel possible. Enabeg e wa autru, en sa qualité de maître. Va guiriu, mes droits, à ne pas confondre avec a lesen la loi ou a lesen goz la coutume. Ces deux notions sont opposables à tous. Les droits, eux, sont liés à une position particulière ou singulière. Réflexion morale et philosophique maintenant, il n'y a pas d'incertitude dans le déroulement de la fable. L'association est trop inégale entre un carnivore, le lion, et des herbivores. On s'attend bien sûr à cette conclusion logique. Les finales de la fable sont cependant bien différentes. À noter tout d'abord que La Fontaine n'en fait aucune, il pense que c'est assez clair comme ça. Gwenaël non plus, mais il donne une pirouette plaisante. « A ma fel d'une en al kregir pevare, nevin kepel ouze vouga, evit deski dehan beva. » Et si quelqu'un se prend d'avis de prendre la dernière part, je ne serai pas long à l'étouffer pour le faire mourir, donc pour lui apprendre à vivre. Paotréouré, le seul à donner une maxime morale, insiste sur la force qui prime le droit. Satare penons et kers entre ou din anglais en ners. Voilà comment les choses se passent quand la loi est la force. Un petit tour chez le philosophe Aristote.
Afin de justifier l'absence de partage, le lion développe un discours dont la dimension argumentative n'est que de surface. Reprenons ici des trois dimensions de la rhétorique aristotélicienne. Le lion commence par rappeler son éthos d'animal, et la raison, c'est que je m'appelle lion. Il se réfère ensuite, maladroitement, à un argument censé relever du logos. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Avant de tenter d'émouvoir son auditoire, pathos, en réclamant la prise en considération de son implication, en réalité inexistante, dans la chasse, comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Néanmoins, cette pseudo-structuration vole en éclats dans les derniers vers. Seule la menace physique rend véritablement possible la tyrannie du lion.
Voilà, cette fable peut être utilisée par beaucoup de monde, par les juristes, mais aussi dans le droit des affaires, en ce qui concerne la rétribution des associés. Ici, une réflexion issue d'un site d'aide commerciale. Voilà. Conduite à tenir dans le droit des associations. Alors, on note par exemple, c'est l'associé qui souhaite contribuer le moins possible aux pertes de la société, mais qui veut bien entendu ne rien vous laisser des dividendes qui pourront être versés. Il y a toujours quelque chose entre l'implication que l'on a dans une société, donc la peine que l'on prend, et puis après, qui a le droit de recevoir les bénéfices ? Car tout associé, parce qu'il est associé, a le droit aux bénéfices. Certes, l'associé fort ne montrera pas sa volonté de vous destituer totalement de tous les bénéfices, il le fera par des clauses qui lui attribueront tout ou la majorité des bénéfices de la société. Voilà, c'est à partir d'ici que l'on peut faire intervenir la notion de clause léonine, et dans les contrats d'assurance automobile, tout ce qui est écrit en petits caractères et qu'on ne prend jamais la peine de lire. Le terme léonin vient du latin léo qui signifie lion. Une clause léonine est la clause par laquelle un associé se réserve la plus grosse part au détriment des autres associés. C'est un cas qui peut arriver et qui peut être justifié d'ailleurs des fois quand un associé apporte son réseau de clients ou contribue par des apports financiers ou techniques tels qu'il décide par des clauses qu'il ne serait pas concevable en cas d'échec pour lui encore de devoir payer pour des dettes de la société et souhaite en cas de succès s'arroger une grosse partie du gâteau puisqu'il a eu mis plus de risques que les autres dans ce cas de figure. Voilà, l'associé qui veut tout est celui qui par une clause va vous priver de votre droit au bénéfice, vous en laissez une part tellement insignifiante qu'elle équivaut à une absence totale de bénéfice. Voilà, les clauses léonines sont formellement interdites, bien sûr, sont considérées comme étant non écrites. Elles sont néanmoins présentes dans beaucoup de contrats d'intégration dont souffrent les éleveurs, les paysans, ceux qui sont sous contrat avec un abattoir ou une société de commercialisation de leur production. Ces sociétés sont souvent dans la position du lion, pouvant faire briller leurs arguments auprès des tribunaux quand l'éleveur se sent démuni et sans avocat, et souvent en position de faiblesse économique. Bon, ici on voit clairement que les fables ne sont pas si gentillettes. Elles décrivent des invariants humains, et l'injustice n'est pas moindre aujourd'hui qu'au XVIIe siècle. Les Anglais diraient « It's not fair, that's not fair, c'est pas juste ». Dans l'origine est la discussion sur le champ de foire, fair, entre acheteur et vendeur. Bon, j'en ai dit assez. La semaine prochaine, une nouvelle fable, l'hirondelle et les petits oiseaux. Bonsoir à tous.